Dieu notre Père, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Cela nous rassure, Seigneur. Quelle joie de se savoir aimé tel que nous sommes. Et Seigneur, tu nous as parlé aussi par ta parole, et ta parole est vérité. Alors notre prière, conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole. Que ton esprit nous éclaire, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ce 18 février 2018. Ô Seigneur, parle-nous et nous serons transformés tout ce jour. Amen. Chers tous, nous finissons aujourd'hui notre parcours de prédication autour des pionniers, mais nos pionniers, nos bâtisseurs d'église. Et voici 58 ans et 11 jours exactement, ici même, il y eut lieu le premier culte à l'église de Gambetta. Un culte avec une poignée de croyants cette poignée a débuté une église ici. Et puis Eva pourrait nous raconter, parce qu'elle était là. Et revenir sur cette histoire, regarder cette histoire, c'est comprendre, c'est tenter de comprendre ce qui animait ces pionniers, qui animait ces croyants de la première génération à Gambetta. Et donc la question c'est, quel est donc l'esprit des pionniers ? Pour tenter de comprendre, il faut un petit peu regarder quelles sont les qualités, en fait, des bâtisseurs d'église. Les bâtisseurs d'église sont marqués par le Christ, par sa mission, par son œuvre, par sa personne. Les bâtisseurs d'église ont une vision ample. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Les bâtisseurs d'église sont naturellement tournés vers l'extérieur. Ils ne se demandent pas où est l'église, mais où s'arrête l'église. C'est autour de ces qualités que nous allons maintenant tenter d'en saisir un peu plus profondément la substance. Et je vous invite à lire ensemble un texte qui réunit ces qualités justement. C'est un texte de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9, et deux versets, des versets 35 à 37. Je vous invite à lire maintenant donc ce texte. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut ému jusqu'aux entrailles pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Voilà jusqu'ici pour la parole de Dieu. Chers tous, le récit évangile, car c'est un récit, une histoire à raconter à d'autres. Le récit évangile parle de Jésus. Et nous en avons un exemple ici même. Et ce qui me frappe ici, frères et sœurs, c'est le souffle, la vie, l'énergie de Jésus pour le peuple, pour les foules, pour l'humanité. Contemplons ensemble ce marcheur infatigable. Contemplons ce pèlerin de l'Évangile qui désire toucher tout le pays, toutes les villes, tous les villages. Et avec Jésus, le royaume de Dieu, cette annonce de la bonne nouvelle, le royaume de la paix, le royaume de l'amour, eh bien, il est visible par sa proclamation, par ses actions de guérison, par son enseignement qui va même vers leur synagogue, c'est-à-dire toute structure, doit entendre. Tous doivent savoir, connaître la bonne nouvelle. Et en lisant ces quelques lignes dans mon bureau, j'étais émerveillé par ce Christ dont le royaume n'a pas de limite. Et on peut se demander à la lecture de ce texte, mais où va-t-il s'arrêter ce Christ? Où s'arrête le royaume? Le royaume selon le Christ n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Et ici, rien ne semble l'arrêter. Mais quelle passion pour l'humanité nous avons ici avec ce Christ. Combien Jésus se donne pour nous. Combien il vit pleinement sa mission pour l'humanité. Mais quelle humanité? Une humanité en quête de sens. Une humanité en quête de berger. Et le regard du Christ perçoit l'errance de tout un peuple. Un peuple qui se cherche. Mais oui, où aller? Comment vivre? Quel sens donner à la vie quand tous les idéaux s'écroulent? Quel sens donner à la vie quand nos projets sont bien souvent mis au placard? Quel sens donner à nos vies quand les relations au travail sont pénibles? Quel sens donner à nos vies quand les relations hommes-femmes sont tellement gauchies? Quand la maladie fragilise, soit sape carrément nos vies? Où aller quand la vie est parfois une tragédie? Où aller quand ce monde crie à cause de la violence des hommes? Cette humanité fragilisée, Jésus l'aime. Et Jésus l'aime à tel point qu'il est remué jusqu'aux entrailles, c'est ce que nous dit le grec. Son cœur, son émotion, ses tripes parlent. Cette humanité-là, fragilisée par la violence, par le mal, Jésus l'aime. Et il veut la sauver de cette errance. Et seul Jésus peut le faire. Oui, il faut oser dire cela. Seul Jésus peut être le berger. Parce qu'il y a un danger pour cette humanité. C'est trouver d'autres maîtres. Mais il n'y a pas meilleur maître que lui. Il n'y a pas meilleur maître que Jésus. Parce que lui ne nous juge jamais. Lui ne nous évalue jamais. Il ne nous donnera jamais une note à bien passable. Lui ne nous enfermera jamais. Il n'y a pas meilleur maître que Jésus parce qu'il nous aime tel que nous sommes. Et il désire, on le voit dans ce texte, avoir une relation avec chacun de nous. Il désire une relation avec chacun de nous. Entendons cela, frères et sœurs, amis. Et je dirais en allant un tout petit peu plus loin dans ce texte, mais il veut guérir quoi? Il veut guérir les relations les uns aux autres. C'est difficile les relations les uns aux autres, vous ne trouvez pas? Le Maître Jésus veut guérir cela. Il veut aussi guérir nos blessures. Donner sa vie, vous savez, une vie du genre qui ne s'arrête pas. Il n'y a personne comme Jésus. Et le texte nous dit c'est quelque chose de ce maître. J'entends un Jésus optimiste. Oui. Je trouve que Jésus est très optimiste. Et je trouve que c'est une belle qualité. Une qualité qu'on devrait, cultiver. Parce qu'il y a dans ses paroles un double optimisme. Parce qu'il voit déjà, l'humanité en paix. Il voit déjà l'humanité en joie. Cette humanité errante, il a un projet pour elle. Et ce projet pour elle se résume dans un mot qui était le titre, dans une parole qui était le titre, la moisson abondante. Je suis très mauvais en agriculture. Mais j'imagine quand un agriculteur, un grand, vous avez un truc, on est dans la bosse par exemple, et là il y a des hectares de champs. J'imagine que celui qui plante des petites graines avec son grand tracteur téléguidé par un satellite, oui ça existe, il ne voit pas que la terre, il voit déjà, dans quelques semaines, la moisson. Et on devrait avoir cet agriculteur touch, attitude de voir comme Jésus, parce que Jésus voit une moisson grande. Jésus voit une moisson abondante. Alors ce terme, on n'est pas toujours très à l'aise, parce que la moisson en général dans la Bible, c'est tout ce qui est le jugement. Jugement devant Dieu. Mais Jésus ajoute quelque chose. Abondante. C'est-à-dire qu'il y aura des foules avec lui dans ce royaume de paix et d'amour. Et c'est ça que j'entends dans ce texte. Nous serons nombreux. Nombreux avec lui. Et les anciens chantaient nombreux comme le sable des plages. Là, je vous ai mis un chant pour toute la journée. Nombreux comme le sable des plages. On ne pourra pas se compter tellement on est nombreux. Est-ce que vous entendez cet optimisme du Christ en voyant les foules? Quand Jésus voit les foules, il voit grand. Il ne voit pas une petite moisson, il voit la grande moisson qui sera là. Mais dans ces nombreux, ces nombreux qui seront avec lui, il y a un appel aussi. Un engagement. Et on passe de la mission du Christ à notre mission, là, maintenant. Parce que Jésus veut communiquer aux croyants sa passion pour l'humain. Il veut communiquer sa joie de la moisson qui va arriver, la moisson abondante. Son projet, il nous le confie. Cette mission, cela ne se fera pas sans nous. Et c'est là que la confiance va arriver. Deuxième point de la confiance. Confiance, premièrement, de la moisson abondante, optimisme. Non, je me suis trompé. Optimisme de la moisson abondante et la confiance aussi, le deuxième optimisme de Jésus. Prier. Prier parce que le Maître, il va envoyer. Il n'y a aucune culpabilisation de Jésus ici. Simplement cette mission qu'il confie. Prier. Pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés. Vous percevez ici la confiance que le Christ nous laisse. Confiance dans la prière que nous adressons au Père. Parce que c'est lui qui suscitera des ouvriers. Vous inquiétez pas, il y en aura. C'est lui qui équipera les ouvriers. Mais j'aimerais proposer et éclairer, donner quelques points sur cette prière. Parce qu'elle n'est pas que prière d'envoi ou de demande du Père d'envoyer des ouvriers. Je crois
que notre prière, le Christ nous demande de prier, notre prière, elle doit s'ancrer dans la méditation de ce Christ-là. Ce Christ passionné pour l'humanité. Ce Christ passionné pour chacun de nous. Autrement dit, ce Christ dont le projet est un projet d'amour pour chacun d'entre nous, mais non seulement chacun d'entre nous, mais pour tout ce monde. Et notre prière, avant de demander l'envoi, notre prière, elle doit être reconnaissance d'abord. Jésus a mouillé le maillot. Un terme sportif. Mais soyons reconnaissants d'avoir eu un Christ aussi passionné par nous. Dieu s'est totalement donné en son Fils. Notre prière doit être d'abord reconnaissance. Elle doit être aussi prière de demande. Donne-nous à nouveau cette passion pour toi, Jésus. Cette passion pour toi, c'est réaliser, comme je l'ai déjà dit, que je suis aimé par lui et que toutes les choses créées sur terre ont été faites pour l'humain. Et retrouver la passion pour le Christ, c'est réaliser combien son projet d'amour pour nous est immense. Oui, que Dieu éveille en nous une passion nouvelle ou renouvelée pour lui, parce que être passionné pour lui, c'est être passionné pour l'humain. Et oui, à fréquenter ce Christ passionné pour l'humanité, eh bien, nous allons aussi être nous. Nous allons être aussi, nous, des passionnés pour les autres. Et cette prière devrait être aussi une demande que le Seigneur nous donne son regard. Pour que nous voyons comme lui voit, non seulement les attentes existentielles de nos contemporains, ce vide à l'intérieur dont la Samaritaine, en Jean 4, a essayé de remplir avec plein de Marie. Ce texte nous dit que cette Samaritaine avait un vide qu'elle voulait combler. Que nous puissions avoir ce regard comme le Christ a eu ce regard sur les foules. Mais cette prière aussi, comme le Christ nous le demande, elle doit être une prière audacieuse et confiante. Je ne sais pas vous, mais en relisant, en méditant ce texte, je me suis dit, mais j'ai jamais pensé à prier comme cela. Seigneur, envoie-moi. C'était dans mon bureau, donc je me... Seigneur, envoie-nous, équipe-nous, fais de nous ces ouvriers pour toi. Est-ce qu'on oserait prier comme cela ? Oserons-nous prier le Seigneur et lui dire « Envoie-moi. » Non mais franchement, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous partager ton projet d'amour avec tout le monde. Envoie-nous dire aux autres que Dieu les aime incroyablement. Je vous propose de le faire maintenant.
j'aime beaucoup dans le texte biblique aujourd'hui. Alors je vous propose aujourd'hui, on va se lever et faire cette prière de confiance ensemble. Je vais prier, et si les paroles de ma prière, mon ami, mon frère, ma sœur te rejoint, tu lèveras la main. Mais cela ne concerne que toi et Dieu, Dieu et toi. Cela ne concerne que toi, dans ton intimité avec Dieu. Alors je nous sais parfois timides. Alors je vous propose qu'on garde la tête baissée. Et que ce soit un temps d'intimité, chacun, avec Dieu. Et si les paroles de ma prière te rejoignent, eh bien tu lèveras la main. Que le Seigneur nous visite, nous inspire pendant la prière. Oui, béni soit son saint nom. Je vous invite à prier. Ô notre Père, béni sois-tu. Tu as envoyé ton Fils, il est venu parmi nous, il nous a tant aimés comme toi tu nous as aimés. Quelle joie de redécouvrir ta passion pour chacun de nous. Oui Seigneur, tu es passionné par moi. Alors en signe de joie et de reconnaissance, je veux lever ma main. Ô Père plein d'amour, par Jésus, tu désires que tous viennent dans ton royaume. Un royaume de paix, d'amour, où la compétition est inexistante. Un royaume de joie, celle de la récolte, celle de la moisson. Un royaume plein de ta lumière. Dans ce royaume, je veux y entrer, parce que c'est toi qui m'invites. Je veux me laisser aimer par toi parce que c'est ton amour qui m'appelle. Et ton amour veut me rétablir. Ton amour veut me guérir. Ô Jésus, tu m'invites. Et je veux lever mon bras pour toi, pour te dire, me voici, je crois en toi, Seigneur, et je veux entrer dans ton royaume. Père, tu désires par Jésus une relation avec chacun de nous. Tu es le Dieu de relation. Et tu veux m'envoyer auprès de mes amis, de ma famille, de mes voisins pour être ouvrier. Cette mission peut-être me fait peur. Comment dire, comment faire, comment parler de toi? Je veux avoir ton optimisme et je veux te faire confiance. Devenir un ouvrier témoin confiant en toi. Alors, envoie-moi, Seigneur. Fais de moi ton ouvrier. Et en levant mon bras maintenant, je veux dire ma confiance en toi pour cette mission. Ô Père, je veux me réjouir avec toi. Car avec toi, tellement de joie, tellement de joie. Et dans cet esprit de reconnaissance, dans cet esprit de prière, de demande, prière d'envoi, nous chantons ce refrain ensemble. Nous chanterons trois fois. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais
Partageons ensemble le repas du Seigneur. Son amour, il l'a montré par la croix, par sa résurrection. Nous voyons ici l'Évangile dans le pain partagé et dans le vin. Alors nous voulons prier ensemble et dire notre joie pour Jésus le Christ, notre merveilleux maître.